échange constructif.
Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1, la radio du futur.
La météo vous est présentée par Air Canada et ses vols directs vers Toronto au départ de Québec. Cet été, jusqu'à 5 vols directs par jour s'offrent à vous. Visitez décollerdequebec.ca.
Gravel dans le retour, un show authentique.
Toute cette saison-ci, j'ai été honnête, j'ai tout dit. J'ai rien gâché, j'ai tout dit.
Authentique.
Apprends à garder des affaires pour toi.
Gravel.
Avec Denis, Véro et Audrey.
15 heures pile. C'est juste du beau en fin de semaine. On a du soleil présentement à Québec. On a 14 degrés. Demain, 20 degrés avec du soleil. Dimanche, 23 degrés avec du soleil. Lundi, 25 degrés avec du soleil. Et mardi, 26 degrés avec du soleil. C'est beau à Québec. On annonce la même chose du côté de Montréal et les amateurs de F1 vont en passer une belle. En direct du circuit Gilles Villeneuve, on est très heureux de retrouver, au terme de la première séance d'essais libres, notre ami Pierrot en direct de son quartier général. Comment ça va, Pierre?
Allô, Denis. Bonjour, Véro. Salut tout le monde. Ça va très bien. Merci de m'accueillir une heure plus tôt, nos horaires étant ce qu'ils sont. Écoute, on veut tellement tout donner à notre auditoire RDS, aux Québécois qui nous suivent année après année. Alors, on est là quand il y a une F1 en piste, évidemment, Denis, mais on veut être là aussi avec nos autres émissions, nos autres plateformes.
Oui.
Là, pendant que je te parle, entre les deux séances, c'est le 5 à 7. Je comprends que c'est pas 5 à 7, là. je comprends que c'est une édition spéciale, mais on essaie vraiment, pas seulement de montrer les voitures en piste et d'expliquer ce que l'on voit, mais on essaie aussi de donner l'idée la plus juste possible de l'ambiance qu'il y a sur le circuit et un peu partout à Montréal, mais particulièrement sur le circuit. Et c'est extraordinaire. Moi, je n'avais pas vu les aménagements qui ont été faits dans les paddocks, par exemple. Je regarde aussi ce que la grande famille Bell a installé. On a un cottage, on a un chalet qui a été installé dans les paddocks où on sert de la poutine, on sert de la tire d'érable, on sert des produits à base de fruits de mer, à base de homard, et tout ça pour les mécanos, pour les équipiers.
Wow.
Écoute, je te jure, il y a une ambiance qui est extraordinaire, vraiment. Puis, tu viens de faire le bulletin de météo, Denis. Ben, est-ce qu'on peut demander mieux comme météo par rapport... Écoute, au même moment l'an dernier, Bertrand et moi, on a pratiquement nagé vers les studios d'RDS pour être capable d'être en onde. Imagine-toi le contraste. Écoute, je ne veux pas, conclure avant que ce soit possible de conclure, mais on le sent là... L'événement, même l'accès au circuit ce matin, tout allait tellement bien. Alors, je pense que tout s'en va dans la bonne direction et c'est ce qu'on essaie de vous faire vivre le plus possible à RDS.
Avec les révélations que tu viens de nous faire, Pierre, j'apprécie doublement le fait que tu sois avec nous alors que tu pourrais être dans un chalet en train de te pacter de fruits de mer avec des mécanos et Bertrand. Apprécie le fait que tu sois des nôtres.
Ben écoute, on préfère rester dans nos quartiers généraux et préparer nos notes.
Des vrais pros!
ben, c'est parce qu'on n'a pas fini. Nous, on va participer un peu, Bertrand et moi, au 5 à 7 tantôt. Ouais. Après ça, on fait un reportage d'un petit peu plus d'1h30 sur la deuxième séance. Après ça, ben, c'est de tradition aussi, Bertrand et moi, que notre reporter Olivier Larue, on a une émission de 30 minutes qu'on diffuse en début de soirée ou en différé selon la grille horaire. On participe même à l'antichambre à distance, Bertrand et moi. Alors, le vendredi, là, c'est mur à mur, puis c'est correct, on aime ça, puis on est content de le faire à chaque année.
Salut Bertrand de notre part, d'ailleurs, un musicien exceptionnel dont j'ai découvert les qualités à la télévision pour l'émission qui te rendait hommage à Radio-Canada.
Écoute, il est à mes côtés, il ne vous entend pas cependant. Alors Bertrand, les gens de Québec te saluent, les gens de Boulevard 102.1. Ils sont en train de parler, Bertrand, de ton talent de musicien. Écoute, je vais te donner un petit scoop, là, jusqu'au décompte, jusqu'à 10 secondes. Est-ce que tu sais ce dont Bertrand et moi on parlait avant d'aller en onde?
De quoi?
On a fait notre top 5 des performances de Woodstock, le Woodstock original.
Mais vous êtes des vrais. Je veux ton top 5, par exemple, Pierre.
Ben écoute, Ben, je ne sais pas si on l'a fait dans l'ordre, mais on a fait évidemment Sweet Judy Blue Eyes de Crosby, Stills, Nash and Young, parce que Neil
Yes.
Young était là.
Oui.
On a mis évidemment Santana. Après ça, on a mis Sly and the Family Stone.
OK.
Après ça, on a mis Joe Cocker,
Oh yes,
évidemment.
j'avais peur que tu le mettes pas, Pierre.
Bon, et là, pour rester à 5, là, c'était déchirant. Honnêtement, on a fait un 5A puis un 5B. Alors, évidemment, Hendrix,
Ben oui.
pratiquement le lundi matin, là. On ne peut pas le mettre là, mais Alvin Lee, 10 Years After, Going
Oh.
Home. Écoute, Bertrand, puis moi, on en parle, puis on craque encore. Puis
I go
Bertrand me
home,
rappelle.
my baby.
Oui. Ouais, mais le lead d'Alvin Lee. Et Bertrand me rappelle toujours, parce qu'il a vu Alvin Lee en spectacle un an après.
Pour vrai.
Il a tenté de recréer ce qu'il avait fait à Woodstock. Et il l'a avoué, il n'a jamais été capable d'être proche de ce qu'il a recréé à
Il
Woodstock.
était dans une zone qu'on appelle, hein?
Écoute, imaginez les raisons que vous voulez, je ne sais pas pourquoi, mais il était plus que dans une zone, il était pratiquement à côté de lui-même, comme on dit, hein? C'est presque inhumain ce qu'il a réussi à faire. Puis là, bon, on était rendu à 2-5, un 5-up, un 5-B. Bon, on va mettre un 5-C parce que Richie Havens, c'est quelque chose aussi. Alors, bref, imagine-toi, quand tu dis, et tu sais que Bertrand n'a jamais cessé de jouer de la basse depuis le premier band d'RDS, il y a quoi, il y a 20 quelques années, Bertrand, quand Paul Buisson était encore en vie, c'était notre batteur. Mais là, c'est que Patrick, lui, à cause de l'émission en direct de l'univers,
Ouais.
Patrick a repris le goût de la batterie. Parce que Patrick, c'est un très bon batteur.
Ben oui, on a
Et
vu ça
puis,
aussi.
puis Bertrand et Patrick, de temps en temps, louent un studio, puis ils vont jouer ensemble avec les musiciens. Et là, Patrick vient de s'acheter. Avant, il y avait un V-drum, il y avait une batterie électronique. Là, il vient de s'en acheter une vraie de vraie. Puis là, il nous a montré, évidemment, il a acheté la base
Ben là.
d'un fournisseur. Il a commandé son snare ailleurs. Là, il vient de commander ses cymbales d'Allemagne. La batterie vient d'Espagne. Bref, fait que là, c'est moi qui étais en train
Ouais,
de
puis toi, tu
ruminer
fais
tout
quoi,
seul.
là? Tu es
Ben, je fais quoi?
t'es un.
Écoute, je vis dans un 4,5.
Ben oui, mais.
Mais là, moi, je
Pierre,
veux
où je.
savoir, tu vas être le Chester Thompson de leur Genesis ou tu vas apprendre la
Ben.
guitare puis tu vas être le Alex Lifeson du Rush de RDS?
Ben, c'est ça le problème. C'est pas mon instrument naturel, tu sais, c'est le drum. Mais
Ben
là,
oui. Mais t'es
à
très bon
l'époque, on
piano
avait.
aussi, par contre, là.
Ben,
Je
c'est
veux
ça.
aller, là.
On n'avait pas le Buisson à l'époque. Et là, on a Patrick. Alors, peut-être que moi, si je veux réintégrer de temps en temps, ne serait-ce qu'en apparition caméo, si je veux réintégrer le band d'RDS, peut-être que je vais devoir retrouver le clavier.
Le
Puis le...
clavier ou, à cause de ton 4,5, peut-être la cloche à vache,
Ah, ben peut-être,
utilisée de
oui.
manière appropriée.
Écoute, la cloche à vache, on pourrait jouer Honky Tonk Women.
Ouais.
On pourrait
Buster
chanter Concept.
the
Oui, on pourrait chanter Conception aussi, le début de Conception de
Oh
Robert
oui.
Charlebois. Alors, écoute, c'est peut-être une option pour moi, mais pour l'instant, disons que je suis un musicien orphelin.
Hey.
Je me cherche un instrument et je me cherche une gigue.
Le Melody Maker n'existe plus. Hein? Tu peux plus passer des petites annonces. Musicien entreprenant cherche collègue pour musique expérimentale.
Je peux pas. Alors donc, écoute, il va falloir que je réfléchisse à la situation. Il va falloir que j'essaie de peut-être mon agent peut essayer peut trouver quelque chose éventuellement.
Ce que je retiens de cette conversation-là, c'est que votre morale est pas mal meilleure qu'il y a 365 jours au Grand Prix de l'année passée. Et si on retourne à votre job de jour, Pierre, il y a eu une séance d'essai libre. Verstappen a été le plus rapide, puis c'est Leclerc qui a pogné le mur quand même assez solide.
Oui, puis Charles, il s'est blâmé tout de suite. Écoute, je te dirais que le premier très grave accident au circuit Gilles-Villeneuve est arrivé exactement là. C'était Jean-Pierre Jabouille à l'époque qui était chez
OK,
Renault.
oui.
Et c'est un peu pour ça qu'on a surnommé l'enchaînement 3 et 4, le point Jabouille. Parce que Jabouille, écoute, il a failli plus jamais marcher du reste de ses jours.
Hey.
Et c'est les médecins ici, Jacques Bouchard et Ronald Denis. Ronald, qui est chef trauma à Sacré-Cœur, ce sont vraiment eux, avec leurs collègues à l'époque, docteur Atlas aussi, à Sacré-Cœur, qui ont sauvé les jambes de Jean-Pierre
Wow.
Jabouille. Et donc, c'est un endroit qui est piégeux. Des fois, on le sous-estime. Et Charles est arrivé, Il est arrivé pour négocier le 3. Il est allé un peu trop large à l'extérieur, ce qui est rare. Il a senti la voiture le lâcher à ce moment-là. Comme il a dit lui-même à la radio, j'aurais peut-être pas dû essayer de faire le virage. J'aurais dû continuer dans la zone de dégagement qui est là pour ça. Il n'a pas eu ce réflexe-là. Et c'est assez rare qu'on voit un pilote aller percuter l'intérieur de ce segment plutôt que l'extérieur. On voit souvent un pilote qui aboutit sur le mur du 4. Là, il a comme percuté le mur intérieur du 3. C'est assez rare. Et ça a quand même causé des dommages assez pour un drapeau rouge et assez pour mettre fin à sa séance. Donc, du travail pour les mécanos chez Ferrari. Pendant ce temps-là, Lewis Hamilton travaillait très fort à essayer de trouver l'équilibre du freinage. C'est vraiment pas encore facile pour Lewis, sa nouvelle réalité chez Ferrari. C'était difficile chez McLaren aussi. On a travaillé beaucoup avec la peinture verte. Je sais pas si vous avez vu le bout là de notre reportage. Bertrand et Patrick ont bien expliqué ce qu'on voit dans ce temps-là. C'est que on utilise la bonne vieille peinture verte, de couleur verte. Et quand la voiture revient au puits, on est capable d'analyser l'écoulement de l'air sur la voiture. C'est aussi rudimentaire que ça, mais c'est aussi efficace que ça quand même encore aujourd'hui. On s'est cherché chez McLaren. Ça avait l'air compliqué. On n'est pas content de l'équilibre à l'arrière de la voiture, du poids sur la voiture arrière. On sait qu'ici, les relances, hein, les longues lignes droites, celles du bassin en particulier, c'est important. Donc, pourquoi je fais tout ce détour-là, c'est que la porte était ouverte pour Verstappen, pour réussir le meilleur tour. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les deux Williams en arrière. Williams, c'est l'écurie surprise cette année, cinquième rang chez les constructeurs. C'est en général une voiture qui adore les longues lignes droites, qui adore les circuits de vitesse. Et ça paraît, là, chez Williams, on est là. Donc, faut faire attention, Denis, pendant la première séance. C'est beaucoup d'exploration, hein, dans tous les sens.
Parce que j'allais te demander, j'écoutais nos gars de sport ici à Boulevard dire que vraisemblablement, fin de semaine, ça allait être encore une domination McLaren. Ça veut pas dire nécessairement qu'on va avoir des surprises, là.
En principe, ils ont raison. Et t'as raison. En principe, ça devrait très bien convenir à McLaren. Mais il y a des facteurs qui sont différents aussi. Comme en fin de semaine, Pirelli amène la gomme C6, la sixième de ses gommes. Et la sixième vers le spectre plus tendre. On a vu cette gomme-là à Imola, au Grand Prix d'Émilie-Romagne, au circuit d'Imola. On l'a vu aussi à Monaco et on l'amène à Montréal. Est-ce que ça va changer la donne en termes de performance? Tout ça reste à découvrir. On l'a beaucoup utilisé dans la première séance aujourd'hui. L'autre facteur qui est très intéressant, c'est la météo. La piste, elle est chaude présentement. Elle redonne de la chaleur lorsqu'elle est frappée par le soleil. 43,3 degrés de piste au moment où je vous parle. Ça, c'est en temps réel la météo que je vous donne. Mais l'air ambiant n'est qu'à 17,9. Alors ça, c'est merveilleux aussi. Donc, une piste plus froide, une piste plus chaude, il y a des voitures qui s'adaptent mieux, d'autres qui s'adaptent moins bien. Donc, il faut vraiment voir l'ensemble de facteurs, puis peut-être attendre la deuxième séance pour vraiment savoir qui semble mieux s'accommoder là. Et l'autre chose dont Bertrand parlait beaucoup tantôt aussi, faut l'expliquer tout le temps, c'est que à l'usine de chaque écurie, il y a tout un dispositif humain qui est en place, là. Des ingénieurs, il y a un pilote dans le simulateur, et tout ce qu'on recueille comme données, avec un lien, avec les liens tellement faciles aujourd'hui, c'est envoyé à l'usine. Tout ça est injecté dans le logiciel et ultimement dans le simulateur. Et donc, tu as de l'évolution entre séance 1 et séance 2. Tu as de l'évolution entre séance 2 et séance 3. Puis tu as de l'évolution entre la séance 3 et la séance de qualif. Tu comprends? Alors, tout ça fait qu'on doit faire très attention avec un classement après une séance libre sur trois.
Pierre, il y a eu des avertissements qui ont été servis aux organisateurs du Grand Prix de Montréal. Parle-nous de l'état des lieux et est-ce que le Grand Prix est évalué en fin de semaine pour le moyen et le long terme ou c'est de l'acquis, le Grand Prix de Montréal?
Ben, écoute, Denis, c'est un peu des deux. Je te dirais que le Grand Prix, il y a bien des gens qui avaient une vision apocalyptique, là. Je vous rappelle que le Grand Prix est signé jusqu'en 2031, minimum. Et je pense que les échos qu'on obtient font que il y a une prolongation peut-être dans la mire. Et pourquoi je suis capable de te dire ça? Ben, c'est parce que même la mairesse, Mme Plante, s'est pas cachée de ça il y a pas si longtemps. Et si tu places maintenant Miami en collégialité avec Montréal, et ça va être vraiment ça à partir de l'an prochain, au mois de mai, et qu'on vient de prolonger Miami jusqu'en 2041, ben, moi, je franchis le pas. Mais c'est Pierre-Aude qui franchit le pas, c'est pas le groupe Octane, et c'est pas, ce sont pas des autorités officielles. Mais moi, je me permets de le faire comme mon point de vue personnel. Cela dit, est-ce qu'il fallait corriger des choses dès cette année pour peut-être avoir cette perspective à très long terme? Je pense que c'est pas faux non plus. Maintenant, est-ce que c'était très formel? Est-ce que c'était par des amendements à l'entente actuelle, par des communications plus ou moins formelles. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on avait besoin de faire ça. Tout le monde était conscient l'an dernier qu'il y a eu des problèmes reliés, qu'il y avait des problèmes sur le site, des problèmes en dehors du site.
Ouais.
Et je te dirais que la plupart de ces problèmes-là étaient peut-être même pas, relevaient même pas pour la plupart de l'organisation du Grand Prix comme tel. Ça relevait de tout ce qu'il y avait autour. Y compris cette météo exécrable qui a amplifié le problème d'isolation qu'on avait ici. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que le Grand Prix pouvait faire pour améliorer les choses et rendre le séjour des équipes plus agréable ici, ça a été fait. Il faut voir les paddocks à l'arrière. Écoute, les endroits VIP, là, c'est sur deux étages maintenant. C'est beau, avec une belle fenestration. Je te jure, vraiment... Je parlais à la responsable des relations publiques de Ferrari ce matin, Sylvia. Sylvia, elle est là depuis presque un quart de siècle. Elle était chez Williams avant. Elle dit, c'est tellement merveilleux pour nous. Elle dit, on a des clients, on a des VIP qui viennent ici, on a des gens qu'on reçoit, on a de l'espace, on a une offre de qualité maintenant supérieure qu'on peut leur donner. Et donc, nous, ce qu'on voit, ce qu'on observe, et je répète, l'accès au circuit ce matin, moi je suis arrivé assez tôt, là, vers 8 heures, Bertrand est arrivé un peu plus tard. Vraiment, tout a été sur des roulettes jusqu'ici.
Tant mieux. Pierre, on le sait, il n'y a rien de plus sincère que de s'excuser deux semaines après avoir fait quelque chose. Est-ce que l'incident est clos d'après toi entre Verstappen et Russell ou il risque d'y avoir des épisodes supplémentaires, soit en fin de semaine, soit dans le reste de la saison?
Je pense qu'il est clos, mais pour une raison peut-être qui a étonné bien des gens, y compris George Russell.
Oui.
Parce que Max Verstappen a assumé la responsabilité de l'incident. Il a avoué sa faute. Il a dit qu'il assume entièrement la portée de son geste et qu'il va en tirer les leçons qui s'imposent. Et même Russell a été surpris de ça. Maintenant, Verstappen a aussi dit, écoutez, je comprends qu'il me reste un point d'inaptitude sur une tranche de 12 mois avant d'être suspendu pour un Grand Prix. Mais il a dit, pensez pas que je vais changer mon pilotage pour autant. Donc,
est-ce qu'on a été assez sévère avec Verstappen, Pierre?
Ben, nous, on pensait que non. Mm-hmm. On pensait la semaine passée qu'il aurait fallu lui imposer une pénalité beaucoup plus sévère que son 10 secondes. Mais dans le fond, avec un peu de recul, le seul petit point d'inaptitude qu'il a de marge de manœuvre est quand même une forme de pénalité, entre guillemets. Tu sais, c'est, dans le fond, il peut bien dire ce qu'il veut. Il peut bien dire que ça changera pas son pilotage. Ça, c'est correct. C'est la bonne chose à dire pour le plateau. Mais est-ce que quelque part, là, Denis, dans son âme et conscience, est-ce qu'il peut vraiment dire, oh, je m'en fous, je raterai un Grand Prix? Non, il peut pas se dire ça. Alors, tu sais, Mais nous, on l'a dit à chaud en ondes il y a deux semaines, on croyait que ça devait être associé à une pénalité beaucoup plus sévère, genre quelques places à la grille de départ ici. On est allé plutôt 10 secondes. Pas 10 secondes, ça lui a coûté, à cause de la neutralisation de la course, tu te rappelles?
Oui.
Puis la fin de la course, ça lui a coûté 5 ou 6 places au classement. Donc, il y a quand même eu finalement une certaine pénalité. Mais là, c'est l'épée de Damoclès qui est au-dessus de lui. Et ça, ben, c'est, en soi, ça n'est plus une forme de pénalité.
Dans les pilotes qui apprécient particulièrement le Grand Prix de Montréal, je lisais que Lance Stroll était un de ceux-là. Tu t'es entretenu avec lui? Comment il va?
Écoute, il va bien. Puis Lance, c'est un peu une énigme. Il a été critiqué par les médias britanniques et non sans raison. J'essaie d'apprendre à connaître Lance. Je l'ai connu, moi, plus dans l'intimité à cause de divers événements promotionnels avec Bombardier et tout ça.
OK.
Tu te rappelles, je suis allé piloter le simulateur à Oxford.
Oui.
On a piloté le simulateur du Global de Bombardier ensemble. Donc, ça nous a créé un lien et on était très heureux de renouer hier. Puis vous allez voir dans l'entrevue qu'il m'a donnée, c'est très chaleureux, c'est très convivial. Puis tu vois, devant la presse en général, devant la presse mondiale, ça, il a été plutôt froid, plutôt détaché hier, assez évasif dans ses réponses, très, très rapide.
Ouais.
Alors, il est un petit peu difficile à saisir, là, peut-être pour les gens. Moi, je pense que moralement, d'abord physiquement, je pense qu'il est bien. Je pense que l'opération, c'était pas si grave, mais ça a réglé un problème récurrent,
OK.
un problème qui était pire sur certains circuits que
Il
sur
en
d'autres.
parlait à cause des vibreurs, entre autres,
Et à Montréal, c'est ça
là.
qu'il disait, parce qu'il faut que tu attaques un peu, hein, les vibreurs ici. J'avais peur de ça. Donc là, on a réglé. Il semble que l'intervention a réglé le problème. Maintenant. Est-ce que, comme je disais en ondes tantôt, on a réglé son problème à lui, mais on n'a pas réglé le problème de la voiture. Je pense que les attentes logiques là, pour Aston Martin en fin de semaine sont pas très élevées. Et même peut-être même pour le reste de la saison. Mais en même temps, l'arrivée d'Adrian Newey, il m'en parlait dans l'entrevue hier, a changé l'optimisme à l'intérieur de l'écurie et à l'usine. Une usine toute neuve, Denis, une usine extraordinaire. Avec toutes les facilités modernes. Il a dit ça, Newey change la donne. Et tu rentres à l'usine, tu croises Adrian Newey, le concepteur des grandes voitures championnes, à l'époque de Jacques chez Williams, la voiture dominante de Max Verstappen, puis de Vettel même à l'époque. Il dit, imagine-toi, tu te promènes dans l'usine, puis tu tombes sur Adrian Newey. Puis là, Newey dit, Lance, j'ai besoin de ton opinion sur tel aspect de la voiture. Puis là, Alonso donne son opinion. Puis il m'a dit, on a créé un rapport. Donc, j'ai retrouvé Lance Stroll revigoré, je vais le dire comme ça, malgré les apparences un peu moins bonnes qu'il a laissées dans le point de presse de la FIA organisée hier.
Votre deuxième séance commence quand, Pierre, là?
C'est un dictateur. Nous, on est en onde 15 minutes avant.
OK.
On va revenir un peu sur ce qui s'est passé en première séance. La deuxième séance, là, vous allez voir, si vous n'êtes pas familier tout à fait avec la progression, là, c'est un peu plus sérieux. La deuxième séance, là, Denis, sur 60 minutes, c'est presque trois tranches égales. Au début, tu reviens sur tes conclusions de la première séance et tu les mets à l'épreuve. Deuxième segment, là, tu essaies de commencer à préparer la qualif. Là, tu vas avec les gommes tendres, tu y vas avec peu d'essence dans le réservoir et tu vois où est ton potentiel de qualif. La troisième tranche, c'est peut-être celle qui est la moins spectaculaire, c'est que là, tu essaies d'évaluer les longs relais avec un type de gomme. Jusqu'où tu peux pousser un relais en course ou à tout le moins essayer de l'évaluer sur une tranche d'à peu près 15 à 20 minutes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, en général, c'est ça, une deuxième séance libre, et c'est ce dont vous serez témoin à compter de 17 heures aujourd'hui.
On va vous suivre toute la fin de semaine. C'est toujours un plaisir de vous voir sur place en direct, évidemment. Dans tout le brouhaha de la F1, as-tu trouvé une heure ou deux pour regarder le match d'hier entre les Oilers et les Panthers de la Floride? My God!
Ah, on lit dans nos pensées encore, Denis, parce que j'allais te dire, parlons un petit peu de hockey en se quittant. Écoute, je vais être très, très honnête avec toi. À 3-0, j'étais déjà en train de faire ma conclusion de la saison à Lynn en disant, qu'est-ce que tu veux, Lynn? Les Panthers ont plus de profondeur dans tous les ingrédients qu'il faut pour gagner le Coupe Stanley. Ils ont aussi la connaissance, la compétence. Ils savent que la fenêtre va se refermer progressivement. Marchand sera peut-être plus là
Puis
l'an
là, le
prochain.
premier but de réplique, c'est compté quand dans ce laïus-là?
Mais attends, c'est encore 3-0, là, parce qu'on est en première période, le Véro. Et là, puis c'est Bennett va s'en va ailleurs. Puis, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est les Oilers, ils vont devoir se trouver un gardien de but. Qu'est-ce que tu veux? Les Oilers, et là, je suis très sérieux dans toute mon analyse. Et là, arrive la deuxième période. Picard s'en vient dans le filet. Et là, qu'est-ce qu'on a vu en deuxième période? Je ne sais pas ce que Norblanc a dit à ses joueurs, mais moi, ce que j'ai aimé, Denis, parce que, bon, je te l'ai dit, je suis allé me coucher à 3-3, donc je n'ai pas vu le dénouement. Mais ce que j'ai vu en deuxième période, j'ai vu que que Connor McDavid et Leon Draisaitl, en particulier, ils ont plus que du talent, ils ont du caractère
Ah
aussi, ils
oui.
ont de la fierté, puis ils ont dû se dire, écoute, c'est maintenant ou jamais. Puis à 3-3, je suis allé me coucher uniquement parce que j'étais vraiment fatigué de la journée d'hier, puis je savais que j'en avais une très longue aujourd'hui. Alors, je le regrette un peu ce matin, en me levant quand j'ai vu le pointage.
Ouais, mais
Mais
c'était dur
écoute,
pour le cœur comme prolongation.
ben sûrement, écoute, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vécu. Alors, je me fie sur toi, Véro, mais je regardais ce matin simplement dans le sommaire qui a marqué le vainqueur. C'est le joueur qui a été le plus crucifié, je pense, si tu me permets l'expression, dans cette série finale. Tu sais, quelque part. C'est beau aussi. Je dis pas comme partisan, je dis simplement que tu veux que ces grands joueurs-là d'exception ressortent dans des moments particulièrement forts.
Ouais.
Et c'est exactement ce qu'on a vu hier. Fait que la question que j'allais te poser, c'est pour notre dernière de la saison la semaine prochaine. Qui va être champion de la Coupe Stanley quand on va se parler?
Hey, bonne question, hein? Puis j'ai hâte de voir si, mon Dieu Seigneur, on va revoir Skinner dans cette série-là. Moi, j'ai l'impression qu'il a peut-être eu son dernier essai hier parce que Pickard a été solide, a été efficace, puis je pense qu'il a reçu plus de tirs au total.
Mais là, à moins que je me trompe, si on se rend en match 7, c'est vendredi.
Oui.
Fait qu'on n'aura même pas encore de
c'est-tu
champion.
Vrai?
Ben oui.
Ah, bon, attends une minute. Ah oui, c'est tellement éparpillé la finale de la Coupe Stanley.
C'est l'enfer.
C'est un mélange des séries de la NBA puis d'événements qui avaient lieu dans les amphithéâtres des équipes.
Ouais.
Là.
OK, donc c'est vendredi. Hey, tu vois, je perds le fil assez vite quand
mais,
je suis dans l'univers de la F1.
Pierre, c'est parce qu'on prenait tous pour acquis que ça allait alterner aux deux jours. Mais tu sais, là, il y a un match demain, puis après ça, je pense que ça va à quoi? Mardi ou mercredi prochain, là?
Et donc, l'ultime serait vendredi soir.
Ouais, exactement. Exact. Je l'ai sous les yeux. Là,
j'ai
ouais.
tout surveillé
écoute,
ça hier avant la prolongation.
Écoute, à défaut de savoir qui est le champion, si ça sera en 7, on s'amusera à spéculer, à
ben
savoir
oui.
qui sera champion, qu'on réglera nos comptes à l'automne.
Hey Pierre, merci beaucoup pour ta belle générosité. Là, je sais que Bertrand est en train de manger un sandwich. Toi, tu t'en vas manger quoi là, avant de repartir ça? Là?
Non, non, Bertrand, il a déjà fini et il a déjà quitté. Là, c'est mon producteur François Côté qui vient de s'asseoir à côté de moi.
Bon.
Alors moi, je m'en vais prendre un petit, je sais pas, un petit quelque chose, comme disait Michel quand tu étais tout petite. Je m'en vais prendre un petit quelque chose à votre santé. Et ben nous, on revient à l'antenne pour le 5 à 7 là, autour de 16h25. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie d'avance de nous être fidèles en fin de semaine. Je sais qu'il va faire beau.
Profitez-en
mais si vous
bien.
Nous regardez en différé, c'est pas plus grave. On est très content d'être là pour nous autres.
Bon Grand Prix, Pierre, puis bonne fête des pères.
Salut. Ah oui, ben c'est vrai, merci. Hey, ben toi aussi, finalement, Denis.
Ben,
j'allais oublier la fête des pères. Une chance que tu viennes
gros
de ramener à l'ordre.
Si nos enfants sont pas ingrats, ils l'oublieront pas, Pierre, eux autres.
Non, je pense pas. Salut.
Salut,
bye.
Pierre.
Bye.
Salut, bye, Véro. Salut tout le monde.
Notre ami Pierre Aude en direct du circuit Gilles Villeneuve, alors qu'on est entre les deux séances d'essais libres à un après-midi ensoleillé de rêve pour les gens du côté de Montréal, puis c'est les mêmes prévision pour toute la fin de semaine de leur côté aussi. Ben oui, on a trouvé le temps de parler du Woodstock original et du top 5 des performances. C'est pour ça que j'aime Pierre, entre autres choses.
Pour revenir au hockey, il y a un match demain, c'est du côté de Edmonton. Le match suivant sera mardi soir. Et si on doit se rendre en match 7, je vous répète que ce sera vendredi soir prochain dans
ouais.
une semaine. Ça s'étire comme un final de la Coupe Stanley.
On écoute Shinedown à Boulevard.
Le vieux Shinedown.